Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 40.
40.
Voici Marie Molle, Stéphane Carpentier, Brice Dujourdet, Greg Caradoni,
déjà,
et Cyprien Sini.
Toute l'équipe est là au grand complet pour vous accompagner jusqu'à 20h, vous informer bien sûr dans la bonne humeur. Vous réagissez, vous commentez, les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook de l'émission, mais aussi le compte Twitter. La saison 2 qui continue, c'est parti, voici le sommaire.
Le Rassemblement National, jamais aussi bien placé pour remporter des régions, et pourtant... En écoutant On défait le monde, vous découvrirez que l'opération dédiabolisation est loin d'être terminée. Le coca de Ronaldo, la bière de Pogba, les sponsors de l'Euro chahutés par les stars du foot. On allumera la lumière sur le business juteux et impitoyable de cette compétition. Vous découvrirez qui a gagné le prix tant redouté de loser, de grand perdant de la semaine. Et ce soir, Laurent... Un parapentiste pas super bien inspiré, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il voulait faire parler de lui avant France-Allemagne, sauf qu'il a mal lu son plan de vol.
Le biais retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne vous parle plus avec cette semaine, Brice, la mort en Malaisie de Nora Quara.
Oui, le corps de l'adolescente franco-irlandaise avait été retrouvé dans la jungle malaisienne en août 2019. Finalement, ce n'est peut-être pas un accident.
D'ici 20h, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou rêve, un prof vraiment pas comme les autres. Et bien entendu... Un fabuleux cadeau à gagner, un séjour pour 4 au Futuroscope de Poitiers. On est comme ça, ça fait plaisir. Hein. On défait le monde, saison 2, épisode 40.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
Défait le monde dans RTL Soir.
Comme tous les vendredis, l'aventure, elle commence par un bon surf de la semaine, Cyprien.
Et cette semaine, évidemment, chez nous, l'événement, c'est la fin du masque en extérieur, la fin du couvre-feu dimanche. Mais regardons ce qui se passe un peu chez nos amis belges. Oui, parce qu'eux aussi, ils assouplissent, mais leur façon belge, quoi. Écoutez plutôt ce député en train de nous expliquer les nouvelles règles sanitaires du plat pays. Je vous préviens, c'est savoureux.
En gros, en Belgique, on va pouvoir rester donc jusque 22 heures à l'intérieur. À 22 heures, Iedereen buiten, tout le monde dehors, pour aller tout simplement où ça ? En terrasse. Parce qu'en terrasse, chers collègues, en Belgique, on pourra rester jusque 23h30. Il y a un match des Diables Rouges qui va jouer. 21h45, c'est la mi-temps. À la mi-temps, il y a tous les supporters qui vont sortir du café à la queue leu-leu. Oh là 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 là, on est en train de gagner pour trouver une place où ? En terrasse. Et en terrasse, il y aura qui ? Une terrasse pleine, évidemment, et tout le monde s'entraîne à regarder le match dehors. Donc on organise le bordel général.
Ouais, autant vous dire que ça va être pratique.
Extraordinaire.
Mais...
C'est pas fini.
Eh oui, ça serait trop simple. Donc on continue, parce qu'il faut aussi gérer les fan zones, vous savez.
On sera donc maximum 400 pour regarder en grand écran à l'extérieur. 400 debout. Sauf, chers collègues, si on peut boire des bières. Si on peut boire des bières, c'est 400 assis. C'est, parce que c'est bien connu. L'absence de bière fait que le virus, il monte le virus. Il sent qu'il n'y a pas de bière. Il dit c'est dangereux. Je monte à 1m50.
Et non, le virus, il reconnaît la bière. Et vous savez quoi?
C'est pas fini. Attendez, c'est vraiment pas fini.
Eh non, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il est formidable, ce député.
Après le match, 23h30, on peut se balader dehors à 10. Sauf qu'à minuit, on passe à 3. Tu reviens à la maison, là, t'es 3, tu reviens à 4. Parce qu'il y en a un qui est rentré par la fenêtre. On n'arrête toujours pas. Non, vraiment.
Eh oui, ils n'ont pas l'ENA en Belgique, mais ça ne nuit pas à la créativité bureaucratique pour autant. Sinon, chez nous, alors l'autre actus sont les régionales, hein, mais pour respecter les temps de parole... On va zapper. Non, en revanche, la présidentielle de 2022 est déjà dans toutes les têtes. Enfin, surtout dans celle de Nicolas Dupont-Aignan, qui a eu une idée, mais alors vraiment emballante, un truc super excitant. Malheureusement, pour l'instant, ça coince un peu, écoutez.
Moi, c'est très clair. J'ai proposé une primaire patriote républicaine, ouverte de Le Pen, Zemmour, moi, Retailleau. Ils ont refusé pour l'instant.
Ah, ça, c'est pas de bol, parce que là, avec un casting pareil, je pense qu'on se serait régalé. Enfin, je tenais à revenir ce soir sur... l'Eurovision. Oui, parce que je sais pas vous, mais moi, même un mois plus tard, j'ai toujours pas digéré la deuxième place de... de Barbara Pravi. Surtout après le scandale de cocaïne, pas cocaïne des Italiens, là, qui était remonté très haut, hein, je vous rappelle, puisque même le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait réagi.
C'est à la commission de déontologie de l'Eurovision de
trancher s'il y a problème. Je pense que l'Eurovision a la responsabilité de l'honneur de ce concours.
Oui, bon, bah, test négatif pour l'italien, mais cette semaine, nouveau scandale, et encore avec les Italiens. Et oui, leur chanson ne serait que le plagiat d'un groupe néerlandais. Ils auraient copié la chanson. Ouais.
Mal.
Alors évidemment, les Italiens nient en bloc, hein, sur LCI.
We didn't even know that band. We didn't, of course, copy anyone.
On connaît même pas ce groupe, on a copié personne, tu parles. Bon, on est quand même allé vérifier. Ouais, bah oui. Non, c'est l'Eurovision, on a vérifié, investigation. Le groupe néerlandais s'appelle The Vendettas. Alors,
c'est comme ça qu'on prononce en néerlandais. Ouais.
Voilà le début de la chanson des Italiens. Ok, vous l'avez. Et maintenant, voilà celle des Néerlandais écrite en 94. Se moquerait pas un peu de nous les Italiens là. Alors je sais pas vous, mais moi je poserais bien un recours quand même. Et en attendant, vivement la semaine prochaine, hein.
Vivement la semaine prochaine.
Allez, recours.
C'est un scandale.
Ah, recours.
Absolument. Je suis d'accord. Sort de la semaine, Cyprien Sini. Collector, le Belge. Hein.
Ah, il est bien, le Belge. C'est Brice qui me l'a signalé.
C'est Bénédicte Tassard du service étranger qui l'a vu.
Ah, grosse production. Ah, oui,
19h23.
RTL soir jusqu'à 20h.
C'est pas fini.
Ah ben non, on vient de commencer.
La grosse info de la semaine, elle concerne les régionales. Premier tour, on le rappelle, dimanche.
Hein. Oui, il faut aller voter. Et cette semaine, donc cette année, le Rassemblement National pourrait bien remporter une ou plusieurs régions, ce qui pourrait être l'aboutissement du travail de dédiabolisation. Et pourtant, Marie, vous qui ne lâchez pas les élus du Rassemblement National dans votre quotidien de journaliste du service politique d'RTL, avec Benjamin Sportouche qu'on salue, vous avez constaté que
les autres
aussi, mais c'est le chef. Que l'opération était loin d'être terminée, en fait.
Et oui, c'est le cœur de la stratégie de Marine Le Pen, la banalisation, la normalisation, appelez ça comme vous voulez. Mais ces dernières semaines, on a découvert sur les listes RN des candidats au profil encombrant, disons, des tweets antisémites exhumés, des incitations à la haine raciale sur les réseaux sociaux, une dizaine de candidats qui posent problème. En fait, c'est un grand marronnier pour le RN. Avant chaque scrutin, on découvre des brebis galeuses, comme l'appelle le parti, qui plaident à chaque fois l'erreur de casting. Alors la question, c'est pourquoi ?
Oui, pourquoi ?
Et parce qu'en fait, le RN a un gros problème de ressources humaines. Il manque de personnel politique, il n'y a pas assez de militants. Et donc, quand il faut investir des candidats, le parti ne peut pas se payer le luxe d'être trop regardant sur leur profil.
Mais alors pourquoi il y a ce problème ? Il vient d'où ce problème de ressources humaines ?
Eh bien parce que l'odeur de soufre n'a pas disparu, que Marine Le Pen le veuille ou non. S'afficher RN, c'est encore prendre le risque de perdre son capital social, de s'attirer des ennuis. Et certains candidats ne veulent pas apparaître à visage découvert. Donc très concrètement, en ce moment même, cela donne des affiches électorales sans photo, dans le Puy-de-Dôme par exemple. Dans les Alpes-Maritimes, à Cap-d'Aille, on a même vu un candidat arracher sa propre affiche d'un panneau électoral pour ne pas être publiquement associé au RN. Il y a une technique qui est aussi très utilisée pour les femmes, c'est d'être candidate sous un pseudonyme. Vous prenez votre nom de jeune fille, vous prenez votre deuxième prénom et hop, le tour est joué, personne ne saura que c'est vous. Donc tout ça montre que le parti n'est pas tout à fait comme un autre. Certains peuvent le regretter d'ailleurs, mais c'est un fait. Et quand le RN annonce fièrement des prises de guerre en signe de sa fréquentabilité, de sa respectabilité, bien souvent ce sont des inconnus du grand public, au départ en tout cas. C'est ce que nous explique Nicolas Lebourg, qu'on connaît bien à On défait le monde, qui est historien et spécialiste de l'extrême droite.
Les prises de guerre du Rassemblement National n'en ont jamais été vraiment les grandes prises de guerre. C'était Florian Philippot, c'était Jean Messia. Monsieur Jean Messia est aujourd'hui un ambianceur de Twitter et un amuseur de CNews. Ça n'est pas sérieux. Monsieur Sébastien Chenu, par exemple, qui a été une grande prise, présentée comme une grande prise de l'UMP, sincèrement, qui connaissait Sébastien Chenu avant qu'il passe au Rassemblement National?
Et sur le fond, Marie, est-ce que le RN reste un parti d'extrême droite?
Alors Marine Le Pen réfute cette étiquette. Elle le dit, nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Mais si on revient à la définition, qu'est-ce que c'est l'extrême droite? C'est pas une insulte, c'est pas le fascisme, c'est autre chose. C'est une vision qu'on appelle organiciste de la société. On considère que la nation, c'est comme un corps humain, un corps biologique. Écoutez Nicolas Lebourg.
L'organicisme, ça veut dire que vous concevez la société comme un corps humain. Vous vous posez des questions sur l'intrusion de corps étrangers parce que ce serait des métastases qui tueraient le corps. Et vous voulez cette unité profonde. Ça, c'est le cœur idéologique de l'extrême droite. Et si vous lisez les ouvrages qu'a écrit Marine Le Pen, elle file des métaphores organicistes tout le long, toutes ses pages. C'est tout simplement elle qui se situe dans une tradition idéologique qui a 2 siècles.
Alors on entend à cet héritage d'extrême droite et on peut se demander même si le RN n'a pas aussi intérêt à garder une forme de spécificité, hein, cette radicalité, ces électeurs demandent de la transgressivité, c'est son avantage concurrentiel, sa différence par rapport aux autres partis.
Mais finalement Marie, quand on entend certains hommes politiques d'autres partis, on n'a pas l'impression que le RN soit si différent que ça.
Alors ça c'est un point qui est très intéressant et qui est sans doute nouveau, c'est la banalisation du RN par l'extérieur, par d'autres partis. Quand le numéro 2 DLR propose une juridiction sans appel pour les procès en terrorisme, quand Xavier Bertrand propose des peines automatiques pour les atteintes aux policiers et s'en prennent à des principes fondamentaux de notre droit, eh bien cela banalise, cela normalise les propositions de Marine Le Pen, ça la ressente si vous voulez, et c'est ce que nous explique aussi Nicolas Lebourg.
Le Front National de Jean-Marie Le Pen avançait grâce à ce qu'on appelait les dérapages de Jean-Marie Le Pen. Je pense que le Rassemblement National avance grâce aux dérapages des autres. Il y a effectivement une espèce de rejet de l'état de droit, d'état de droit vu comme une mollesse, et en fait de tentation de ce qu'on a appelé l'illibéralisme. Cette idée qu'après tout, l'état de droit, le souci des libertés fondamentales finit par empêcher l'action nécessaire de l'État.
Donc pour résumer, dans ces structures de management, sur le fond, dans ces propositions, la banalisation du RN est en cours mais n'est pas achevée, mais elle peut compter sur ses adversaires pour l'aider à se recentrer.
Marie Mollet pour la grosse info de ce soir à 19h27.
À suivre dans On défait le monde.
C'est pas fini.
Votre première info pour briller au dîner. On allumera la lumière sur le business de l'euro et bien sûr le jeu à venir. C'est pas fini, à tout de suite.
À suivre dans On défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Acte 1, c'est la première de ce soir. Info pour briller au dîner, c'est avec Laurent pour parler bac.
Oui, vous le savez, les candidats des bacs généraux technologiques ont planché jeudi sur la philosophie.
Oui, c'est un scandale d'ailleurs.
Ah, pourquoi?
Parce que c'est la note qui compte, c'est la meilleure contre le contenu. Bref, c'était mon édito.
C'est très argumenté en tout cas. Oui, parce que c'est vous.
D'accord, génial. Ils sont tous partis au bout d'une heure. C'est ridicule.
Oh là là, le vieux, le truc générationnel.
Désolé, je vais perdre du temps.
On aimerait bien jeter un œil à votre copie.
Vous avez raison. Le bac, c'est une longue histoire. Ah oui, c'est honteux ça d'ailleurs. Le bac, c'est une longue histoire de plus de 200 ans. La version moderne, que l'on connaît, a été inventée en 1808 par Napoléon. Mais comment s'appelait la première bachelière en France? Julie Victoire Daubier. Elle a décroché son diplôme en 1861 à l'âge de 37 ans avec un total, alors là vous n'allez pas comprendre, de 6 boules rouges, 3 boules blanches et une boule noire.
C'est Motus. Voilà.
À l'époque, pour obtenir son bac, il n'y avait pas de notes ni de moyennes. Les examinateurs avaient recours à un système de boules de couleur. Une boule rouge signifiait avis favorable, une boule blanche abstention, une boule noire avis défavorable.
Pas mal,
l'origine de Motus pour Cyprien.
Bien joué.
Très très bien, avec cet édito de Cyprien.
On arrête là.
Qui a eu 4 donc, pardon, 2
Oui, j'ai eu 4 en philo, ça va.
Donc ça méritait une bonne analyse, merci.
19h32.
Bravo.
Mais oui.
Allume la lumière
quand un expert nous éclaire sur l'actualité. Ce soir, on va parler de l'Euro de football.
Avec des images qui ont aiguisé notre curiosité et certainement la vôtre aussi d'ailleurs. Vous avez peut-être vu Cristiano Ronaldo et Paul Pogba en conférence de presse écarter des bouteilles de Coca et d'Heineken comme Brice. Vous avez peut-être aussi constaté avec étonnement qu'il y avait des pubs en chinois autour des terrains.
Bref, on a voulu en savoir plus sur les dessous de ce business autour de l'Euro de foot. On s'est demandé pourquoi la Chine était un sponsor majeur de l'Euro de foot. On a voulu savoir si les gestes de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo pourrait avoir des conséquences, mais aussi si les sommes faramineuses générées par cette compétition pouvaient continuer de grimper.
On a donc contacté Vincent Chaudel, il est économiste du sport et cofondateur de l'Observatoire du sport business. Et d'abord, pourquoi toutes ces pubs en chinois? Et vous allez l'entendre, c'est pas parce que les Chinois s'intéressent à Macédoine du Nord, Pays de Galles.
Ça se compte en milliards. Voilà pourquoi il y a des droits télé importants. Voilà pourquoi aussi on a des sponsors qui peuvent paraître exotiques, parce que la Chine espère accueillir une Coupe du Monde 2030-2034. C'est-à-dire qu'ils préparent le terrain pour obtenir une Coupe du Monde. L'UEFA, c'est 54 membres, et donc si les 54 membres ont envie de voter sur la candidature chinoise, c'est quand même une meilleure idée pour eux. Donc, ils anticipent et ils marquent leur présence. Le sport est démocratique, mais dans une démocratie un peu particulière. Dans le sport, il y a une démocratie, c'est des votes, sauf qu'on connaît le nombre d'électeurs de façon précise et on peut interagir avec eux directement. Donc voilà, pour certains, ça s'appelle du lobbying. Pour d'autres, ça s'appelle de la corruption, et puis pour d'autres, ça s'appelle de la géopolitique.
Voilà, donc l'histoire, c'est un coup de billard à trois bandes. Ils sponsorisent l'euro en espérant récupérer des voix pour l'attribution du mondial.
Oui, c'est du lobbying, de l'influence, de la diplomatie par le sport, en fait. Et concernant Pogba et Ronaldo, ça a fait le buzz, mais ça n'a pas fait rire tout le monde.
Loin de là. Et à écouter Vincent Chaudel, ça ne va pas s'arrêter là, surtout.
les annonceurs et les organisateurs vont réagir très vite. La réaction en bourse suite à la bouteille de Coca-Cola et Cristiano Ronaldo, c'est dire une perte de valeur, mais c'est un instantané de 4 milliards pour Coca-Cola. Et donc, quand Coca-Cola, comme Heineken, mise 40 millions d'euros en tant que droit sponsoring, c'est pour bénéficier d'une image positive et non pas un bad buzz comme le fait qu'un joueur aussi puissant que Cristiano Ronaldo se moque quelque part de votre produit. Donc, j'imagine que Coca-Cola et Heineken, dans le cadre de Pogba, vont demander des comptes à l'UEFA, qui va elle-même demander des comptes aux fédérations concernées, qui devraient rappeler aux joueurs que s'il y a 371 millions d'euros de primes redistribuées par l'UEFA aux fédérations participantes, c'est en partie parce qu'il y a des annonceurs et qu'ils seraient bien inspirés de ne pas se moquer d'eux, ou alors accepter de plus avoir de primes à l'avenir. Et donc, le sujet qui se pose là, au-delà de la bouteille de Coca ou la bouteille d'Heineken, c'est de dire, à un moment donné, on ne mord pas la main qui vous nourrit, ou alors on accepte de plus être nourri par cette main-là.
On a vraiment donc l'impression que ce sont les sponsors qui décident d'à peu près tout. Il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu.
Bah, par exemple, le dernier Euro en France en 2016, rien que pour l'UEFA, l'organisateur, c'était 1,9 milliard de chiffre d'affaires et 850 millions d'euros de bénéfices. Et ça, bah, c'est pas prêt de s'arrêter visiblement.
Le business de l'euro au niveau de l'UEFA, c'est son deuxième produit, c'est limite un produit vache à lait. Il y a la Ligue des Champions qui est tous les ans, et puis il y a l'euro qui est tous les 4 ans, qui génère beaucoup de droits télé, beaucoup de revenus, qui lui permet de vivre en permanence et de redistribuer vers les fédérations. Est-ce que ça va continuer à grimper? Bah, le problème, c'est qu'on a changé de dimension. Mais on n'est même pas au niveau de l'Europe, on est au niveau du monde désormais. Donc, on parlait tout à l'heure de l'intervention du Qatar ou de la Chine en tant que sponsor sur un euro, c'est bel et bien la preuve que l'euro concerne bien au-delà des frontières de l'Europe.
Voilà, une histoire d'argent dans ce monde du football. J'aimerais bien voir le garçon qui va gronder Ronaldo, hein, au passage. Je suis assez curieux de voir tout ça. 19h36, c'est On défait le monde jusqu'à 20h.
À suivre dans On défait le monde.
Une deuxième info pour Brio.
C'est pas fini.
Le loser de la semaine. Non,
c'est vraiment pas fini.
Ouais, et c'est pas fini non plus, parce qu'il y aura le cadeau du Futuroscope. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La deuxième de ce soir, c'est avec Brice, encore du foot, encore de l'argent.
Oui, parce qu'on parlait à l'instant des enjeux financiers de l'euro. Je voulais juste vous dire que ça existe évidemment aussi au niveau des clubs, puisque Kingsley Coman, vous savez, l'international français qui joue au Bayern Munich, eh bien, il a eu la mauvaise idée de se présenter dans sa Mercedes personnelle à l'entraînement au Bayern il y a quelques semaines. Sauf que le Bayern Munich est sponsorisé par la marque Audi. Ouh, et donc, le joueur s'est vu refusé par le gardien l'accès au parking et il a dû garer sa voiture dans la rue, finir le trajet à pied jusqu'au centre d'entraînement et il a écopé d'une amende de 50 000 euros pour non-respect des règles. En fait, il y en a une règle au Bayern, il faut venir en Audi à l'entraînement quand vous êtes un des
joueurs. Ouais, mais c'est une galère ça.
Ah, quelle corvée de...
Heureusement qu'ils ne sont pas sponsorisés par Je ne donnerai pas de marque.
Non.
19h40. RTL. Le loser de la semaine.
Ah, le loser, le grand perdant de la semaine. Et alors, faut dire que dans cette rubrique, hein, on en a vu passer des champions pendant 2 ans. Mais alors ce soir, Laurent, vous avez quand même dégoté la crème de la crème de la loose.
Oui, nous sommes quelques instants avant le coup d'envoi de France-Allemagne mardi. 14 500 spectateurs présents dans le stade de Munich, l'Allianz Arena pour ce match de l'Euro. Et un militant de Greenpeace est dans les airs, prêt à faire parler de lui.
Vers l'infini et au-delà.
Sur son ULM, bien embarqué, avec un objectif en tête, survoler le stade et laisser tomber un ballon léger en latex avec un message.
Kick out oil.
Dehors le pétrole, en anglais, en ligne de mire, Volkswagen, l'un des plus gros constructeurs automobiles du monde, est sponsor de l'euro. La demande de Greenpeace, accélérer la sortie des véhicules thermiques, essence, diesel. Le pilote, 38 ans, expérimenté, a un moteur électrique en parfait état technique.
Ça va être du grand
ménage. Ah, je vous le promets, mais une fois arrivé au stade, la descente ne se passe pas comme prévu. Le pilote a oublié un paramètre non négligeable, la Speedercam. Cette caméra, vous savez, suspendue, qui filme le match, l'action depuis le ciel et le long câble qui la maintient donc dans sa tête. Il a dû se dire que ça allait passer, tranquille. On imagine un peu cette scène au centre de commandement de Greenpeace.
Tournez à gauche. À gauche. Tournez, putain de bordel. Tournez, là-haut. Putain. Putain, c'est pas vrai.
Ouais, le pilote accroche le câble de la caméra aérienne. Écoutez bien cette vidéo prise au stade au moment de l'impact. Vous entendez le clic, hein, le moment où l'ULM se prend le câble. Voilà, la suite fait froid dans le dos. Le pilote déséquilibré tente de rétablir les commandes, manque de s'écraser en tribune et de percuter des membres de l'équipe de France. Notre Dédé a été dans les parages. Notre sélectionneur Didier Deschamps s'est mis en sécurité sur le banc de touche, non sans mal.
Bon, je suis une petite bosse parce que j'ai tapé un peu le haut du banc, mais c'est rien, ça aurait pu être. Oui, on a frôlé un drame encore une fois, donc ça restera que de la littérature puisque ça n'a pas de conséquences.
Le pilote de 38 ans termine son aventure sur la pelouse. Deux hommes sont blessés, un Français et un Ukrainien. Le militant a été rapidement interpellé, mais il aurait pu s'en sortir avec plus de dégâts.
Un acte inconsidéré et irresponsable. Selon le ministre bavarois de l'Intérieur, si les tireurs d'élite n'ont pas abattu le pilote, c'est parce qu'ils ont vu la mention Greenpeace sur la toile de parachute.
Ouais, il a eu très très chaud, à deux doigts d'être abattu. Greenpeace a présenté ses excuses. Et pourtant, pour le directeur général de l'organisation en France, Jean-François Julliard, tout était bien préparé. Il a affirmé chez nos confrères de France Télé.
L'équipe de France, l'équipe d'Allemagne. Considérable, qui avait été mesurée ?
Oui, qui avait été mesurée, qui avait été réfléchie, comme chaque fois que Greenpeace mène des actions comme celle-là.
Ah oui, c'était bien préparé, ils avaient juste oublié la caméra aérienne dans le plan de vol. Voilà. Le pilote a été remis en liberté mercredi. Une enquête est ouverte pour plusieurs délits. Il est poursuivi pour blessures dangereuses, intrusion et menaces du transport aérien et d'autres délits, et j'en passe.
Loser de la semaine, signé Laurent Tessier à 19h43.
C'est l'heure du jeu, les amis.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Allez, envoyez-nous à Poitiers, Monsieur Cadeau.
Vous savez, il m'arrive de côtoyer des personnes qui considèrent toujours que c'était mieux avant.
J'espère que vous ne parlez pas de moi, Greg.
Non, non, Pascal, pas du tout. À tous ceux qui pensent la même chose que Pascal, sachez que ce cadeau ne vous intéressera pas car vous pourrez remporter ce soir un séjour de 4 personnes, pour 4 personnes, au Futuroscope. Ah, vous rêvez d'être Thomas Pesquet, vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendrez notre astronaute.
C'est pas fini,
car vous aurez le choix parmi plus de 40 attractions. C'est un séjour dans un avenir proche pour un cadeau dans un futur très très lointain, le Futuroscope. Deux adultes, deux enfants, l'entrée au parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs, l'accès à l'aquaféerie nocturne, une nuit en hôtel 3 étoiles, en chambre quadruple. Vous vous souvenez de cette chambre quadruple avec les enfants, c'est super. Il y a évidemment le petit déjeuner. Alors, sommes-nous responsables de l'avenir, vous vous souvenez ? En tout cas, vous êtes responsable du vôtre si vous répondez à cette question, Cyprien.
Oh, pas mal.
Il a des lettres.
Ouais, il a passé le bac philo. Quel joueur de l'équipe de France s'est fait remarquer en conférence de presse en déplaçant une bouteille de bière ? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est A, Paul Pogba ? Est-ce que c'est B, Paul Cézanne, qui jouait avec Aix-en-Provence ? Et est-ce que c'est C, Paul Newman ? Vous savez que Newman, vous pouvez l'écrire dans les deux sens, ça marche. Bon, bref.
Mais non.
Mais ça dépend comment vous écrivez le... Oui, bon, Paul Pogba, non. Paul Cézanne ou Paul Newman ? Vous avez la bonne réponse ?
Ça marche pas du tout.
32-10,
en fait. Ça 30 fait Namon.
On tirera au sort parmi les bonnes réponses et on passera un coup de tuyau au gagnant, je vous montrerai tout à l'heure.
N'importe quoi.
3-2-1-0 sur votre téléphone, top départ pour la tentative. Et rejoignez-nous au standard, s'il vous plaît, il est 19h44.
On défait le monde sur RTL.
Bien retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui.
Et ce soir, on va vous parler de la disparition d'une jeune franco-irlandaise qui avait fait la une au cœur de l'été 2019.
Noura, 15 ans, disparaît mystérieusement lors de vacances en Mali.
Des centaines de policiers et de militaires. La jungle épaisse, passée au peigne fin pour retrouver Noura Kouara.
La voix de la mère de Noura résonne dans la jungle malaisienne depuis plusieurs jours maintenant.
Et après 10 jours de recherche dans la jungle malaisienne...
Il est 6h du matin, heure locale, quand l'information est communiquée aux médias. Un corps vient d'être découvert à 2 km à peine du lieu de la disparition. C'est bien Noura Kouara, 15 ans, qui a été retrouvée sans vie.
Terrible issue, l'enquête malaisienne va conclure à une disparition et à une mort accidentelle. Donc Brice, on peut considérer que l'affaire est classée ?
En 48 heures, oui, pour la police malaisienne, mais pour les parents de Noura Kouara, non, pas du tout. En fait, Noura souffrait d'une holoprosencéphalie, c'est une maladie, si vous voulez, qui entraîne un handicap mental et physique. Alors les parents n'ont pas de preuves, mais pour eux, dès le début, au regard de sa personnalité, de sa sensibilité, de sa dépendance et de la situation géographique de l'hôtel, il est impossible que leur fille soit partie seule dans la nuit. Ils sont persuadés que c'est un homicide, que quelqu'un est venu ce soir-là dans la cabane de l'hôtel où il séjournait. Ils demandent donc rapidement l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ils essuient deux refus, mais avec l'aide de leur avocate et de diplomates français, les autorités malaisiennes autorisent enfin, un an après la mort de Noura, l'ouverture d'une enquête. Ça, c'était en août dernier.
Un an pour obtenir l'ouverture d'une enquête.
Absolument. Et cette enquête, elle va durer un peu plus de 3 mois. Une cinquantaine de personnes sont interrogées, mais la famille de Nora a encore le sentiment que les enquêteurs, une fois de plus, ne mettent pas tout en œuvre pour obtenir la vérité. Et en début d'année, il y a quelques mois, à l'issue d'une audience en visio du fait de la situation sanitaire, c'est la douche froide, comme l'explique Sébastien Coirin, le papa de Nora.
Vous savez, depuis le début, hein, on a eu le sentiment de ne pas être écouté, voire même d'être totalement ignoré par les autorités malaisiennes. Et lorsque cette enquête judiciaire a eu lieu, nous avons eu l'expérience d'une parodie de justice, puisque le verdict a été prononcé comme une mort accidentelle, sans tenir compte des circonstances ni du profil psychologique de Nora.
En fait, la juge ne prend pas du tout en considération la personnalité de leur fille, pourtant si particulière et capitale dans ce dossier.
Et malgré tout, les parents, là, ils ne lâchent pas.
Absolument, le couple franco-irlandais fait appel, mais leur avocate les prévient. Il est très peu probable qu'un juge malaisien contredise cette décision de première instance, mais avant-hier, coup de théâtre.
Now, these facts taken together established that it was unlikely for Nora Ann to have gone out on her own. I am therefore constrained to...
En visioconférence, à nouveau, le deuxième magistrat casse le jugement de première instance. En fait, il dit qu'au regard de la difficulté à se déplacer dans cette forêt très accidentée et au lieu où a été retrouvé le corps de la jeune fille, de la personnalité, il est improbable, il dit même presque impossible qu'elle soit sortie seule. Il annule donc la première décision, un soulagement pour les parents.
Une grosse émotion, c'est l'aboutissement de 22 mois de combat acharné envers les autorités malaisiennes. Le juge a conclu que la mort accidentelle était improbable. Il a pris en compte la dimension psychologique et physique de Nora dans son verdict, chose qui avait été totalement ignorée durant l'enquête judiciaire.
Il y a un autre élément que le juge ajoute, c'est que 2 jours avant que le corps de Nora soit retrouvé dans le ruisseau, une équipe de recherche était passée à cet endroit précis et n'avait rien trouvé, ce qui laisse penser que peut-être quelqu'un a déposé le corps après. Et donc, au regard de ces éléments, il prononce ce qu'il appelle un verdict ouvert, c'est-à-dire que désormais, toutes les pistes sont possibles.
Et donc ça peut relancer l'enquête?
Alors l'enquête judiciaire, non. Les Malaisiens ont été clairs, elle est terminée. Ce qu'espèrent désormais les parents de Nora, c'est que des langues se délient avec le temps, que de nouveaux témoins arrivent et que de nouveaux éléments apparaissent.
Cette affaire a bouleversé le monde. Nous recevons des courriers de tous les pays du monde. Certains médias, en particulier des médias d'investigation, s'intéressent à cette affaire. Donc nous pensons que l'annulation du verdict précédent pourrait constituer un intérêt supplémentaire vis-à-vis du journalisme d'investigation. Et qui sait, peut-être que cela nous permettra d'avoir plus d'informations.
Et puis il y a une dernière chose, des empreintes ont été relevées sur la fenêtre de la chambre restée ouverte. Un jour peut-être, ces empreintes seront identifiées. L'espoir est mince, mais pour les parents de Nora, ce qui est capital aujourd'hui, c'est que cet espoir existe encore.
Récit RTL Brise du génie, le billet retour à 19h49. Restez bien là, dans un instant c'est la troisième info pour briller au dîner, à tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
Winamax, les meilleures cotes.
Et oui, c'est l'heure de retrouver un gagnant Winamax sur RTL. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Anthony qui nous vient de Paris. Salut Anthony.
Bonjour Raymond.
Alors toi Anthony, tu as gagné 5 166 €. Tu as parié sur combien de matchs pour empocher cette somme?
J'ai parié sur 6 matchs. Danemark-Finlande, Belgique-Russie, Angleterre-Croatie, Pays-Bas-Ukraine, Hongrie-Portugal et France-Allemagne.
Et dis-moi, tu avais misé combien sur ce combiné de 6 matchs?
Alors, j'ai misé 27,44 €. C'est ce qui me restait sur mon compte Winamax. Et la cote avec les boosters, tout ça, je devais être à 189,30.
Oui, au final, tu n'as pas forcément joué les surprises. Tu as préféré les valeurs sûres, c'est ça?
Alors oui, effectivement, j'ai joué les valeurs sûres sur 5 matchs. Par contre, j'ai pris un gros risque en misant la Finlande contre le Danemark, qui était une cote à 8-1. Parce que pour gagner beaucoup, bah, évidemment, il faut des fois prendre des risques. Et c'est ce qui s'est passé.
Dis-moi, pourquoi tu as choisi Winamax pour tes paris?
Ça fait une dizaine d'années que j'ai ce site. J'ai jamais eu de soucis avec, ça se passe plutôt bien, donc j'ai gardé ce site pour les paris sportifs.
Eh ben merci pour tes précisions et encore félicitations pour ton pari gagnant Anthony. Je te dis à la prochaine.
Merci, au revoir.
Et moi je vous dis à très bientôt sur RTL pour une nouvelle chronique Winamax.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
19h52, Cyprien.
Oui, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, jour de l'appel du 18 juin, vous connaissez tous.
Moi, général de Gaulle,
J'entreprends ici.
Moment clé de notre histoire, bref, vous le savez. Cet appel que vous venez d'entendre a été enregistré plus tard. Celui du 18, le vrai, n'a pas été enregistré. Mais il y a une photo, en revanche, qu'on présente pour illustrer cet appel du 18 juin. On y voit le général en tenue derrière un micro. Sauf qu'en fait, la photo non plus, elle n'est pas du 18 juin. Elle a été réalisée que bien plus tard, pour les informations cinématographiques, en fait. Et ça, on le sait, car sur la photo, si vous regardez, et vous regarderez, le général,
c'est une obligation, ouais,
le général porte la croix de Lorraine, qui n'est devenue l'emblème de la résistance que bien après le 18 juin. Et je signale que c'est une info signée Céline Landreau qui m'a appelé ce matin.
On comprend mieux.
Finalement, Céline, elle bosse plus quand elle n'est pas dans l'émission.
On comprend surtout pourquoi c'est intéressant.
Meilleur van de la soirée, 19h53.
Marche ou rêve.
Quand on met en valeur vos projets, vos initiatives.
Avec un prof qu'on aurait certainement tous aimé d'avoir, je pense, Laurent.
L'Union Européenne à vélo, c'est le projet de Jean, 40 ans, professeur des écoles. Génial. À Saint-Valery-sur-Somme, dans le département, comme son nom l'indique, de la Somme. Départ prévu en février 2022, devant son établissement, durée du parcours 5 mois. Une aventure évidemment sportive, mais aussi pédagogique. Et Jean est en ligne avec nous. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors, pour quelle raison allez-vous vous lancer dans ce périple ?
Alors, c'était un rêve d'adolescent. Quand j'avais 16 ans, en 1997, j'étais chez mes cousins. Et puis, j'ai pris un bout de papier, un stylo, et j'ai fait un rêve de Tour d'Europe à vélo. En limitant à l'Europe du Nord et en préparant, voilà, un projet, un petit projet. Et puis, voilà, ce rêve d'adolescent était dans une boîte à souvenirs que j'ai retrouvée. Et puis maintenant j'ai 40 ans et puis je pense que c'est le bon moment pour réaliser ce rêve d'adolescent.
Et voilà. Il y a un projet pédagogique derrière.
Voilà, il y a un projet pédagogique parce que je suis professeur des écoles depuis 16 ans maintenant, je crois. Et voilà, j'aime beaucoup mon métier. Et puis j'avais pas envie de prendre une année sabbatique, j'avais vraiment envie de garder le lien avec mes élèves. Donc j'ai trouvé une bonne formule avec un mi-temps annualisé. C'est-à-dire que je vais travailler avec mes élèves pendant 6 mois et puis je vais partir 5 mois sur les routes. Et puis je vais être suivi du coup par mes élèves qui vont avoir un remplaçant ou une remplaçante. Et puis je vais être suivi par mon école et puis par beaucoup d'autres écoles à travers l'Académie d'Amiens, la France et puis le monde. Parce que j'ai enseigné 11 ans à l'étranger, donc j'ai beaucoup de connaissances en Europe et dans le monde.
Ah oui, 11 ans à l'étranger. Ma question était, est-ce qu'en 16 ans, vous avez le sentiment que vos élèves se sentent plus européens ou est-ce que justement, c'est parce qu'ils ont des lacunes là-dessus que vous êtes dit, il faut peut-être faire encore plus de pédagogie ?
Ouais, je pense que voilà, on est tous européens, mais est-ce qu'on se sent européen ? C'est là la question. Et puis, je pense que les élèves, ils ont envie de connaître l'Union européenne parce qu'ils connaissent l'euro, ils connaissent... les cartes d'Europe qu'on peut étudier, mais voilà, est-ce qu'ils connaissent vraiment la culture de la Lettonie, par exemple, ou de la République tchèque, je suis pas sûr. Et donc, ça sera un projet qui va être long, 5 mois, donc il y aura du temps dans chaque pays pour apprendre de chaque pays, de chaque culture, de chaque langue, et puis les rencontres vont être très riches en 5 mois, donc il y aura plein de moments pour que les enfants apprennent des choses sur les petits Européens que je vais aller visiter dans les écoles que je vais traverser. Et
Jean, vous êtes vélo à la base ?
Alors moi, j'étais surtout coureur. J'ai beaucoup fait de trail, d'ultra trail et de trekking à travers le monde.
Ouais, vous avez le cardio, quoi.
Ouais, ça devrait aller.
Ça le fait.
Ouais, donc j'ai eu la culture, on va dire, de préparation de course. C'est pour ça que la préparation de ce périple ne me fait pas peur. Je vais être consciencieux dans la préparation. Au niveau vélo, en fait, il y a un an, j'ai arrêté d'avoir une voiture. Je me suis lancé un défi, c'est d'utiliser mon vélo au quotidien, tous les jours. Donc j'ai ma compagne qui a une voiture pour les trajets un peu plus longs. Mais sinon, je m'efforce de faire mes courses en vélo, de faire tout en vélo. Et d'aller surtout à l'école en vélo, et mes élèves pourront témoigner que je viens poser mon vélo chaque jour.
Et je crois qu'en plus savoir que votre voiture n'était pas passée au contrôle technique, en tout cas ça demande un budget. Voilà, il vous faut 20 000 euros pour cet objectif de l'Union Européenne à vélo. Donc pour toutes les informations, rendez-vous sur la page Facebook l'Union Européenne à vélo.
Bravo. Super. Jean, et on suivra tout ça de très très près, évidemment.
On a le gagnant.
Eh ben oui.
Peut-être. C'est Benoît avec nous au téléphone d'Arras. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, quelle est l'identité de ce joueur français ? Paul Pogba, Paul Newman ou Paul Cézanne ?
Paul Pogba.
Ouais. Bravo. Voilà, vous pouvez aller à 4 au Futuroscope avec nuit en hôtel 3 étoiles dans une chambre pour 4, hein, 2 adultes, 2 enfants.
C'est bien ça. Hein.
Et vous êtes déjà allé au Futuroscope ou pas?
Je suis allé, j'étais au collège et il n'y a pas très longtemps, on a vu un reportage avec, avec mon conjoint. On s'est dit, faudrait qu'on y retourne. Je me suis dit, tiens, je suis dans les bouchons, je vais tenter ma chance. Et
génial,
dit,
voilà, c'est quoi, cadeau.
Super. Eh ben, on est super contents pour vous, Benoît. On est ravis de vous offrir ce
merci
cadeau.
Gentil. Merci beaucoup.
Vous nous envoyez une carte postale, évidemment. Profitez bien. Merci d'avoir appelé, bien d'avoir sûr. Joué. On revient vendredi prochain, toute l'équipe.
Absolument.
La semaine prochaine.
Le foot après l'actualité, les 19h57.
Angleterre-Écosse, ça va être génial.
C'est pas fini,
Ah bah si, là c'est fini.
On défait le monde dans RTL.